Vous êtes sur Studio ZEF et c'est l'heure de Feuilles Vives, votre émission de reportage entre ville et campagne. Huitième émission de Feuilles Vives aujourd'hui et zoom sur l'agriculture paysanne qui regroupe des acteurs clés dans l'évolution du rapport ville-campagne, aussi bien dans les domaines économiques que politiques et sociales. Notre reportage nous emmène à la fête de l'agriculture paysanne qui a eu lieu le 3 septembre dernier à la limite nord du Loir-et-Cher, au Gau du Perche. Elle est organisée par le syndicat agricole La Confédération Paysanne et son penchant civil, l'ADEAR, pour Association de Développement de l'Emploi Agricole et Rural. Sandra Vanessa Liégeois est photographe spécialisée sur le milieu paysan et coprésidente de l'ADEAR. C'est elle qui m'emmène à la fête de l'agriculture paysanne, une bonne heure de trajet et quelques explications.
C'est une association qui a été fondée en 2001 par des paysans de la Confédération paysanne. Et il y a plusieurs blocs, on va dire, donc effectivement plusieurs pôles. Il y a le pôle installation-transmission qui est vraiment très très important puisque c'est ce qui permet d'accompagner les jeunes côté installation et d'aider les paysans à transmettre. Et il y a la partie pratique agricole, donc là qui est vraiment liée avec les formations plus globales, c'est-à-dire les formations dont les paysans ont besoin. Et la partie dont je m'occupe moi, qui est donc circuit court et agriculture paysanne, qui va plutôt s'occuper de la diffusion de l'agriculture paysanne auprès du grand public, mais pas que, aussi des quand on a par exemple des demandes d'intervention par des partenaires. C'est aussi ce dont va s'occuper cette commission. Ou le lien avec les AMAP, pardon pour la bosse. Et puis la façon dont on diffuse nos outils aussi. Pour moi, l'agriculture paysanne, c'est un projet de société. C'est pas uniquement un projet agricole. Donc l'ADEAR, c'est. Puisque la Confédération paysanne, c'est un syndicat. L'ADEAR, c'est l'endroit de lien avec la société civile où les idées de la conf vont pouvoir être diffusées plus facilement, en fait. S'il y avait uniquement les actions syndicales qui sont fondamentales, on n'aurait pas autant d'actions de développement. Donc, en fait, c'est un peu les deux jambes d'une même personne, conf ADEAR, qui permettent d'avoir des actions syndicales d'un côté. Et en même temps de diffuser le projet de l'agriculture paysanne auprès du plus grand nombre.
Et dans ce dispositif de communication, la fête de l'agriculture paysanne joue un rôle clé, autant auprès des adhérents que des sympathisants ou du grand public.
Donc là, on va chez Jean-Luc Mérillon, qui a des vaches laitières. Ça va être l'occasion de faire une visite de ferme. Et puis en même temps, il y a un spectacle. Donc à chaque fois c'est la même chose quoi, c'est la même chose, c'est évidemment pas la même chose, c'est des fêtes différentes. Mais il y a toujours un côté agricole et un côté qu'on va appeler agriculturel avec un spectacle, la découverte pour les gens de la ferme, à travers différents biais qui sont pas que agricoles.
Et pourquoi c'est important de mélanger ces deux aspects ?
C'est important de mélanger ces deux aspects parce que l'agriculture, ça vit pas tout seul. Et que l'agriculture et la culture, ça se marie bien, ça vit bien ensemble. Ça va permettre à des gens de pousser les portes d'une ferme alors qu'ils n'y seraient pas forcément allés, dans un sens. Et ça va permettre à des gens qui sont plutôt intéressés par le côté agricole de découvrir des choses plus culturelles. C'est un mariage qui réussit, généralement. Le monde, c'est pas les paysans d'un côté et le reste du monde de l'autre. Et ça, c'est important. Parce que malheureusement, il y a plein de gens qui n'ont pas de lien avec la nourriture qu'ils consomment, qui n'ont pas de lien avec la façon dont c'est produit. Et c'est important que ces mondes se rencontrent et qu'on comprenne bien justement que sur une ferme, il peut se passer d'autres choses que de l'agricole. Et que les gens arrivent donc à l'agriculture aussi par ces autres choses.
Et qu'est-ce qui fait que ça marche pour toi ?
Bah, je pense que c'est cette recette-là, c'est le mélange de découverte d'une ferme, produits paysans, donc il va y avoir un marché. C'est pas qu'un marché de producteurs, c'est un marché de producteurs et d'artisans. On peut faire ses courses à la fête paysanne, on peut manger un bon repas paysan, on peut découvrir un spectacle. Aujourd'hui, il y aura des interludes musicaux et puis il y aura une fanfare pro. Voilà, on peut découvrir vraiment pas mal de choses différentes sur un temps qui est convivial et festif et où il y a des choses prévues pour tout le monde. Il y a aussi des choses prévues pour les enfants, il y a des jeux, on peut se promener. Ouais, c'est ce côté convivial. En fait, je crois que les actions au départ de la DAR et de la conf qui marchent le mieux, c'est des temps conviviaux. Mais ça, c'est une recette qui fonctionne un peu partout, en fait. Commencer par découvrir les gens sur un temps convivial, c'est important. Et ça va permettre de causer de choses plus graves. Mais on cause toujours mieux autour d'une tartine et d'un verre de vin, quoi.
Et cette année, c'est la ferme laitière de la Goujetière qui accueille la fête de l'agriculture paysanne. On écoute son exploitant Jean-Luc Mérillon, paysan laitier depuis 30 ans.
Ces fêtes paysannes, qu'est-ce qu'elles apportent pour la ferme qui les accueille ?
Un peu de visibilité et puis aussi pour faire connaître nos idées, et puis surtout nos produits, et puis faire connaître aux gens qui sont un peu loin de l'agriculture qu'on peut faire autrement que du classique. Et puis aussi pour qu'il y ait un marché. Il y a un marché, donc on est producteur et souvent transformateur et un petit peu commerçant. Donc on vend nos produits aux gens.
Le lait bio, c'est un lait qui est différent du lait classique.
Ah bah sûrement.
Rien que par l'alimentation. On ne retrouve pas les mêmes protéines, ni les mêmes types de matières grasses. Parce que c'est alimenté au moins 50% à l'herbe. Donc par exemple, nous en oméga 3, on est toujours très 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 haut. Parce qu'il y a beaucoup d'herbes dans l'alimentation.
Ah, oui.
Par exemple, par rapport au lait Varolex là, avec du lin, on est largement ce qu'ils font.
Ah, oui.
Ouais. Donc voilà. Grâce à l'alimentation à l'herbe, principalement. Par contre, il n'est pas plus riche en matière grasse, hein. c'est du lait à peu près standard. Quoi.
Mais autrement, conservation d'un lait bio, on le garde beaucoup moins longtemps.
Non, pourquoi ?
Ah, je ne sais pas, il n'y a rien pour conserver, donc à part le frais.
Voilà, oui, oui. Mais après, dans les supermarchés, il est UHT, donc là, il est...
Oui, mais c'est plus du bio parce qu'il a été...
C'est toujours du bio, oui. Et ça, après, les gens, les acheteurs, ils achètent ce qu'ils veulent. S'ils veulent du lait UHT, eh ben nous on leur rend du lait UHT bio. Après, c'est le consommateur qui décide.
Il a été stérilisé.
Ah oui, tout à fait.
Donc il est un peu cuit pour moi.
Ah ben si pour vous il est un peu cuit, il faut acheter du lait frais.
Voilà. D'accord.
Et on vient là où vous ne faites pas partie de lait à juste prix ?
Non.
Alors c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
Voilà.
Non.
Il dit je vais poser la question.
Oui, non. Nous, on essaye d'avoir le juste prix pour nous grâce à notre groupement.
Qu'est-ce que la Confédération Paysanne, l'ADR, qu'est-ce que ces réseaux-là apportent aux paysans
une autre manière de voir l'agriculture, quoi. Il y a un système où on peut dire, grosso modo classique, on produit beaucoup. Et on s'agrandit pour résister à l'économie. Et puis il y a une autre agriculture où on produit moins, mais on vend localement, on transforme localement. On évite d'importer des produits qui viennent d'Amérique du Sud, produits dans de mauvaises conditions. Et voilà,
Et qu'est-ce que ça apporte, tous ces changements de production? Pourquoi c'est important de mettre ça en place?
Ben parce que l'agriculture paysanne, il faut garder des paysans sur place, quoi.
Mais pourquoi?
Ben parce qu'il faut du travail. Il faut du travail pour tout le monde. Et quand on a une grande surface, ça veut dire qu'à côté, il y a des gens qui n'ont pas de surface du tout.
Ok, très bien. Et vous, en tant que paysan, dans votre vie d'exploitant agricole de tous les jours, qu'est-ce que faire partie de ces réseaux-là, qu'on fait ADA, ça vous apporte dans votre présent?
Ben, ça me conforte dans mes idées, sachant qu'on les partage avec quelques-uns qui sont dans le même syndicat. Déjà, en groupe, on est plus fort que tout seul.
Et je sais pas, est-ce qu'il y a des formations?
Oui, tout à fait, il y a des formations, oui.
Est-ce que vous parlez de démarches comme ça qui sont intéressantes?
Par exemple, moi je produis beaucoup d'herbes et ça fait 2 ans qu'on fait une formation herbe. Comment faire pâturer des vaches? Quelle espèce semer? Comment les récolter? Comment être autonome? L'autonomie, c'est quelque chose d'important sur l'exploitation.
Et faire pâturer les vaches, les faire manger davantage d'herbes, c'est un facteur d'autonomie?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Comment ça marche?
Parce que l'herbe, il n'y a que nous qui pouvons la produire. Une vache est pâture, donc il faut des parcelles autour de l'étable. Quand vous achetez du soja, il a fait 10 000 km, vous n'avez pas besoin de production autour. Et voilà. Donc vous n'êtes pas autonome, vraiment. Donc il y a 50 vaches en permanence à traire, grosso modo, entre 45 et 55. Avec deux races, des primochtènes et des normandes. Et puis quelques croisements entre les deux. Donc ça fait 20 ans que je suis en bio. Donc la bio, il faut que toute l'exploitation soit en bio pour pouvoir vendre du lait en bio, évidemment. Toute la nourriture soit bio. Donc alors ici, moi je suis presque en autonomie. C'est-à-dire que j'achète très peu à l'extérieur. J'achète de temps en temps du foin, quand les années sont un peu sèches. Et puis les céréales, pour l'instant, j'en achète pas. J'ai toujours 20 à 25 hectares de céréales en permanence, qui sont récoltées soit en grains, soit immatures, en silé. Quoi dire d'autre? Donc c'est un bâtiment à logette. C'est-à-dire que chaque vache a une case pour se coucher. Une case avec un tapis caoutchouc et puis un peu de paille dessus. Et puis une passe au robot et ils vont dehors, une fois que la traite est faite, à l'herbe, individuellement. Donc l'alimentation, on va aller voir ce qu'ils mangent à peu près dans l'année là. Et grosso modo, avril, mai, juin, à l'herbe, quasiment uniquement. Et puis à partir de juillet, il y a moins d'herbe. Donc on foin, en silage et céréales, quoi.
Les protéines pour l'hiver, alors?
Alors, les protéines pour l'hiver et l'été, c'est à peu près les mêmes. C'est des légumineuses, des trèfles, oui. Luzerne, févrole, des pois, lupins et herbes aussi. Alors, donc moi, je fais pas de maïs. Donc c'est très facile d'équilibrer une ration à l'herbe parce que c'est quasiment équilibré, une ration à l'herbe. Donc de l'herbe de printemps, c'est équilibré, il n'y a pas besoin d'amener soit de l'azote, soit de l'énergie, c'est équilibré. Équilibré jusqu'à 20 litres de lait. Au-dessus, ça devient un peu compliqué. Donc moi, je ne cherche pas la performance.
Mais la qualité?
Oui, voilà. Quand je suis à 20 litres de lait en moyenne, donc je suis bien, quoi. Donc 20 litres de lait, ça fait 6 000 litres de lait par vache par an, ce qui est très bien. Je ne cherche pas... Il y a des années, c'est moins bien parce qu'il y a moins d'herbe. Les années, c'est un peu mieux parce qu'il y a plus d'herbe. Donc, voilà. Dès qu'on est sur du fourrage conservé, le niveau baisse un peu. Quoi.
Bah oui, il y a moins d'apport.
Oui, voilà, c'est un peu moins riche. Quoi.
C'est un peu moins
riche. Donc là, j'ai un groupe de génisses prêtes à inséminer. Ils vont rester là un mois, ils vont être inséminés, et puis après, ils vont repartir au champ. Et puis après, j'ai mes vaches qui sont là. Dans la journée, ils sont à l'ensilage et au foin. Et en ce moment, la nuit, ils sont au pâturage. Oui, il n'y a pas assez de pâturage pour tout alimenter uniquement à l'herbe. Quoi dire d'autre? Après, j'attends vos questions parce que
Je voulais vous demander, c'est quoi comme mélange d'herbes dans les pâtures ? Un mélange d'herbes dans les pâtures ?
Alors, moi je fais des mélanges principalement trèfle blanc, régra anglais, fétuc.
Ah oui.
Avec un peu de lotier, un peu de... Voilà, c'est le principal. Et puis les parcelles qui sont plutôt fauchées, c'est soit luzerne, soit trèfle violet, avec de la fétuque. Avec de la fétuque.
Comme dans le...
Je voudrais vous demander une question. Les fermiers qui donnent des pommes de terre aux vaches.
Oui.
C'est pas bon, hein.
Si, c'est très bon.
Pas parce que t'entends, les vétérinaires, ils disaient qu'il fallait jamais donner une pomme de terre aux vaches.
Malheureusement, moi, ça fait 20 ans que je distribue des pommes de terre.
Ah bon ?
Oui.
Ah, d'accord.
Immédiatement après, une autre visite démarre, celle de la comédienne et ancienne conseillère agricole Véronique Blot. Elle prend le costume d'une guide touristique pour offrir un autre regard sur la ferme.
C'est vraiment le mot clé de la gouttière à autonomia. Autonomie. Autonomie alimentaire des vaches avec l'herbe et autonomie calorifique avec le bois déchiqueté des haies pour les humains qui habitent le domaine de la gouttière, c'est-à-dire un couple et leurs deux enfants. Voilà. Bon, après, il y a tous les touristes, bien sûr. Alors, ici, nous sommes dans la cour d'honneur. Devant vous, les bâtiments... Avec ici les communs, nous visiterons toutes les pièces des communs. Plus loin, vous avez la place du forum avec sa terrasse et son escalier monumental. Et cette cour d'honneur est là pour accueillir la famille, les amis, les collègues, les touristes. Et puis aussi le facteur, et vous le voyez, comme à Venise, comme sur la place Saint-Marc, des marchands de souvenirs.
Le spectacle que je propose aujourd'hui, qui s'appelle « La visite super guidée de la gouttière », c'est en fait un parcours insolite et décalé dans ce lieu qui pourrait être classique d'une ferme, mais où on va mettre un regard particulier, peut-être à un endroit qu'on ne regarde jamais, ou en donnant une explication un peu fantaisiste à un lieu qu'on n'avait pas compris comme ça. Il y a des lieux qui sont incontournables, je trouve, dans une ferme, une ferme laitière, la laiterie, de voir des vaches aussi. Mais alors, qu'est-ce que j'apporte, moi, de différent par rapport à la visite classique de l'agriculteur ou la vision classique qu'on a d'une ferme ? Apporter du fun, en fait. Ça fonctionne.
Ok. Et donc, en tant qu'ancienne conseillère agricole, est-ce que, bah là, par exemple, sur ce spectacle-là en particulier, on a senti qu'il y avait un petit peu une volonté aussi d'expliquer, bon, peut-être pas d'expliquer, mais voilà.
De faire de la vulgarisation.
Présenter le paysage, par exemple,
ce paysage
bocager, de... est-ce que ça peut être un bon moyen de faire comprendre certaines choses, d'aider à faire comprendre comment marche une ferme ?
Oui, tout en sachant que moi j'ai sélectionné les messages que je voulais transmettre parce que je les ai pris et parce que c'est aussi ma sensibilité en rapport avec la Confédération Paysanne, l'agriculture biologique et la DAR. Voilà. Et ouais, dans le spectacle, effectivement, il y a des messages sur cette agriculture ou ce respect de la nature, mais toujours de façon très légère, en fait. Voilà, je ne suis pas dans une conférence ou dans... Voilà.
Mais est-ce que cette légèreté, elle ne l'aide pas, justement, à faire...
Oui, sans doute. Parce que dans le public qui était présent, il y a à la fois des gens qui sont pro-agriculture biologique et puis d'autres que je connais très bien qui ne sont pas du tout là-dedans, qui sont dans l'agriculture conventionnelle ou productiviste. Et à la fin du spectacle, ils disent « Merci, c'était super ce que tu nous as fait !» quoi. Et j'ai reçu les clins d'œil, ou voilà. Donc ça fonctionne, oui.
D'accord. Même pour des gens, je ne sais pas, parce qu'il y a l'objectif, c'est aussi de toucher des gens qui ne sont pas du milieu agricole.
Oui,
qui sont pas...
oui, ça fonctionne. Encore mieux pour eux, parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de...
Mais comment on fait ? Parce que du coup, c'est un spectacle qui utilise des concepts agricoles.
Oui.
Comment est-ce qu'on parle à des gens qui n'ont pas ces références-là ?
Bah, tout simplement, voilà, par exemple, pour parler d'autonomie ou de choses importantes dans le système de production de la ferme, eh bien, par exemple, de produire ses propres céréales pour nourrir les vaches, eh bien, dans le spectacle, ça devient le trésor national. C'est très précieux. et c'est synonyme de autonomia, l'autonomie de la ferme. Voilà, tout simplement. Et c'est présenté, le mot trésor est utilisé pour ces céréales, mais c'est aussi présenté de façon comme un trésor très précieux aux gens. Donc forcément, ça les marque.
Alors, ici, au bout de la cathédrale bovine, on trouve l'emplacement du robot de traite. À la Gouchetière, il s'appelle Astronaute. Tout simplement parce qu'on a toujours vraiment l'impression qu'il vient d'une autre planète. Pour l'agriculteur, si vous voulez, c'est un grand bénéfice parce que l'astronaute fait la traite, même s'il est malade, même si c'est les vacances, même si c'est le week-end, même si c'est la nuit, même s'il y en a marre, lui, il fait la traite. Et est-ce que parmi vous, dans vos pays, vous voyez ce feuilleton français qui s'appelle Les Feux de l'amour? Oui, il y en a qui connaissent, qui le reçoivent aussi dans vos pays. Voilà. Alors, en fait, si vous voulez, l'agriculteur et son robot, c'est un petit peu Les Feux de l'amour. Parce qu'il l'aime et il ne l'aime pas. On se dit, il y a toujours un... Ah, ben non, il y a toujours quelque chose... Ben non, ça va. Alors pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi il l'aime, et il ne l'aime pas parce que, certes, c'est lui qui fait toutes les traites, donc il a l'astreinte des traites, mais c'est l'agriculteur qui a l'astreinte du téléphone et de répondre au robot de traite qui appelle très fréquemment pour dire « vache en retard, vache bloquée, problème lavage ». Et c'est une autre façon de fonctionner pour l'agriculteur. Puisque quand il a, je me dis par exemple, oh mais cette vache elle mériterait quand même beaucoup plus de poudre de trésor, rapport au lait qu'elle produit, eh bien au lieu d'aller vers sa vache, eh bien il s'installe à son bureau, il allume l'ordinateur, il chausse les lunettes, il cherche le dictionnaire d'anglais, et il programme plus de poudre de trésor pour sa vache. Vous voyez comme ça perturbe l'humain en fait.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la politique agricole et industrielle française repose sur des outils de planification. L'objectif est de restaurer la puissance économique du pays à marche forcée. Intensification, mécanisation, concentration des terres, utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires chimiques, l'accroissement des rendements est spectaculaire dans les premières décennies où cette politique est mise en œuvre, mais demande une remise en question complète du mode de vie des agriculteurs. Jusqu'ici, allergiques à l'endettement, ils sont encouragés à investir pour augmenter leur production et réduire leurs prix. Les résultats à long terme de cette politique se sont avérés désastreux pour la paysannerie française. Chute de l'emploi agricole, dépeuplement des campagnes, isolement des agriculteurs, soumission à la grande distribution, à la finance internationale ainsi qu'aux industries phytosanitaires et agroalimentaires, et enfin destruction d'écosystèmes et donc perte de fertilité des sols. C'est cette spirale infernale que souhaite enrayer le mouvement paysan. Agriculture paysanne, biologique, raisonnée sont des concepts qui se chevauchent mais qui ne se recouvrent pas. On peut être paysan sans être bio et inversement. Explication de François Martin, paysan céréalier près de Montoire depuis 27 ans, converti en bio depuis 2008.
C'est une agriculture qui respecte avant tout les hommes déjà, les hommes, les producteurs, l'environnement beaucoup. Et voilà quoi. Enfin, nous, on prône, c'est ça, une agriculture qui soit proche des hommes avant tout, des paysans, et tout en respectant l'environnement, quoi. Et on essaye de recréer aussi du réseau au sein du monde agricole, parce que depuis quelques décennies, on sent que les surfaces se concentrent, que les exploitations s'agrandissent. Enfin voilà. Et nous, on dit qu'il y a d'autres solutions et on les met en pratique. Hein, nous, depuis, en général, les surfaces des gens de la Confédération sont en dessous de la moyenne générale. Quoi. Et en travaillant autrement, en partageant le matériel, en pratiquant plein de systèmes, le partage. Enfin, on parle de semences paysannes aussi à l'agriculture, à la Confédération. Donc on conserve nos semences, on garde nos semences, on se les transmet de paysan à paysan. Et pour nous, il y a d'autres solutions que la fuite en avant par l'agrandissement et l'intensification des structures. Quoi. Parce que par ce système, on déshumanise, on individualise les structures Et puis on voit bien qu'au niveau impact social et environnemental, c'est un peu catastrophique, quoi. Donc voilà. Quand on parle technique, lorsqu'on se rencontre entre paysans, on parle des situations de chacun. On ne parle pas avant tout du porte-monnaie, quoi. Alors que c'est vrai que le fait de l'avoir pratiqué en conventionnel, dès qu'on rencontrait un technicien de la COP et tout, on parlait que de chiffres. À chaque fois, c'était les marges hectares. C'était... Alors que voilà, ça ne fait pas tout, quoi. La marge est importante, il faut vivre. Mais si c'est au dépend de la qualité de vie ou de la déshumanisation, enfin, je ne sais pas trop. C'est vrai que la conf aussi met le doigt sur l'agriculteur... Au sein du monde rural, la vie, enfin moi je suis dans un petit village d'une centaine d'habitants et c'est vrai que ça fait partie de... Le paysan fait partie de la vie du village, donc si on réduit le nombre de paysans en concentrant les surfaces, ça diminue le nombre d'actifs dans les campagnes. On sent que les campagnes elles meurent, mais c'est parce qu'il y a de moins en moins de paysans aussi, donc plus d'activité, plus de commerce, plus de mécanos, enfin tout suit, quoi. Je crois que je sais pas trop, mais il me semble que un paysan qui s'en va, c'est 5 actifs autour, quoi. C'est des chiffres moyens et effectivement, mais on le ressent. Moi, depuis 25 ans que je suis dans un petit village, là, on sent que ça meurt. Nous, on a perdu. Bon, c'était un petit village où il y avait une dizaine de paysans, on est encore 3. Mais on sent que la vie s'en va tout doucement, quoi, avec les paysans qui tombent. Bon.
Comment est-ce qu'on arrive à s'adresser à un public qui a perdu vraiment toute référence et toute culture agricole et paysanne?
Par ce type de manifestation comme aujourd'hui, quoi. On essaye. Et puis bon, c'est vrai que l'agriculture paysanne elle prône aussi la valorisation, la réduction des circuits, les circuits courts. Donc en réduisant les circuits, on rentre au contact du consommateur. Et bon, même moi en tant que céréalier, nous on a réussi à mettre des choses en place. Moi je ne transforme pas de produits, mais je bosse avec un réseau de paysans autour. Donc on réduit les circuits, voilà. Mes céréales vont chez un producteur de porc bio à côté. Et je fais en agriculture bio, les légumineuses sont très importantes. Donc je fais de la luzerne et du trèfle. Donc le trèfle va à un éleveur de moutons et de chèvres qui en échange me fournit du compost. Donc voilà, on propose plein de solutions comme ça. Il y a plein de solutions, même pour des systèmes un peu spécialisés comme le mien. On peut recréer des circuits à petite échelle, quoi. Et là, rentrer en contact avec les gens plus facilement. Parce que le producteur de chèvres, de fromage, il explique aux consommateurs que en fait, le foin vient de chez le voisin. Et là, on recrée du lien et on arrive à... Donc après, c'est vrai que chez nous, on a créé une AMAP, il y en a de plus en plus, il y a des choses comme ça. Donc nos producteurs locaux fournissent la MAP pour les maraîchers, pour le producteur de porc. Donc on met beaucoup l'accent aussi là-dessus, quoi, sur la réduction des circuits pour recréer du lien et refaire découvrir aux consommateurs comment fonctionne le monde agricole. Et puis à ces occasions-là, on peut débattre justement des problèmes économiques, de la PAC. Et ça fait partie des solutions pour recréer un peu pour combler ce fossé, ouais, qui existe, effectivement. Pour moi, le paysan, c'est comme les gens qui sont en contact en lien avec l'environnement, qu'il soit la nature, le sol et l'environnement social du village. C'est tout ça, je crois. C'est vraiment,
L'agriculture paysanne, à la différence de l'agriculture biologique, n'est donc pas un label que l'on pourrait attribuer à des systèmes agricoles précis. C'est plutôt une démarche qui dépasse les questions économiques et agronomiques pour aborder les thèmes d'autonomie, de temps de travail, de pénibilité, de lien social, d'écologie, de relations producteurs-consommateurs. On retrouve là le projet de société ou agriculturel dont on parlait en début d'émission. Le bio, les circuits courts ne sont pas des objectifs en soi, mais des outils pour mieux intégrer l'agriculteur dans son environnement naturel et social. Cette meilleure intégration doit permettre, dans le même mouvement, de revaloriser le travail agricole, de viabiliser les exploitations et de revitaliser les campagnes. Retrouvez ce reportage dans la rubrique Feuilles vives du site studiosf.fr. Prochaine émission, les 6 et 13 octobre prochains, sur le café associatif de Lancé et sur l'initiative écologique et solidaire Ciné Cyclo. À bientôt!
Quelle belle vallée! Avec ses fermes et ses fermiers, avec ses graines et ses greniers.